CO2, mon amour, si ça ne fait pas de bien à l'environnement, ça ne peut pas faire de mal.
Et oui, c'était un homme que l'on aimait beaucoup et que l'on retrouvera d'ailleurs à la fin de cette émission. Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement avec aujourd'hui Jean-Claude Barret et Julien Dumont à la technique, assisté de Jean-Baptiste Olibert, je n'oublierai pas Jean-Christophe Pinaza, et bien c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Et quand la Terre se met à grogner, à se tordre, à se casser, ce qu'elle a toujours fait et continuera à faire, et bien on ne peut avoir qu'une pensée, je crois, assez forte et compassionnelle avec celles et ceux que nous ne connaissons pas, donc là-bas à Java, mais qui vivent et qui meurent aussi sur cette même planète. Alors, petite humeur. Ah bah oui, on profite évidemment de ce long week-end pour faire un tour à la campagne. Alors, petit rappel pour les citadins, la campagne, si vous savez bien, c'est cette étendue sauvage qu'on voit de l'autre côté des vitres du TGV ou des barrières d'autoroute quand on va d'une ville à l'autre. Non, je suis sûr que vous avez déjà vu ça. La campagne, en gros, si vous voulez, c'est un grand parc d'attractions où les habitants de la ville viennent le dimanche faire trois petits tours. La campagne, vous savez, il n'y a pas mieux comme terrain de jeu. Et c'est pas comme en ville, évidemment, puisqu'on peut faire ce que l'on veut. On peut faire du feu, de la fumée, mais du bruit, des rêves partis, du quad, de l'enduro. Même parfois les plus téméraires font du vélo et de la marche, c'est vous dire. Hein. Oui, oui, oui. Alors, on peut faire ce qu'on veut, du moins, c'est ce que croyaient les membres du club des déterreurs qui organisent ce week-end un rassemblement dans la forêt de Troncet, dans l'Allier, à Saint-Bonnet-Troncet. D'ailleurs, c'est un très joli coin, entre parenthèses. Les déterreurs, ils avaient tout prévu. Ils avaient prévu les chiens, la bière, la bonne chère et quelques petites séances de déterrage pour se mettre en bouche. Bref, du pain et les jeux en même temps. Ah, j'oubliais. C'est quoi le déterrage? Eh bien, le déterrage, c'est très simple. On repère quelques terriers de blaireaux ou de renards, on envoie des meutes de chiens dans les galeries pour coincer la bestiole, puis on prend des pelles et des pioches et on creuse. On sort la victime, on l'achève et on rebouche le terrier pour recommencer l'année suivante. Au cas où vous auriez un doute, je vous rappelle que nous sommes au 21e siècle. Cette année, bah pas de chance pour eux. Parce qu'il y a eu une taupe, oui oui bien sûr, une taupe parmi les déterreurs, une taupe connectée à Internet. Et l'histoire du championnat de déterrage de la forêt de Troncet a fait le tour de la toile depuis déjà 2-3 semaines, avant d'atterrir sur le bureau de la ministre de l'écologie, qui est intervenue auprès des préfets de l'Allier et du Cher. Alors au banc des accusés, dans leur tenue d'équipage, donc les déterreurs ont invoqué la chasse fermée depuis le mois de janvier, trop de blaireaux, tu le blaireaux, en mai, fais ce qu'il te plaît, etc. Et pour calmer les esprits, les autorités ont fait donc des promesses. On espère qu'elles seront tenues. Il y a quand même une manifestation aujourd'hui à Saint-Bonnet-Troncet. Alors une petite suggestion pour nos amis des terreurs, champions de la pelle et de la pioche. Pourquoi ne pas vous lancer dans le BTP, hein, dans les Alpes? Il paraît qu'il reste encore quelques tunnels à creuser. Alors, je vous disais qu'il y a eu effectivement beaucoup, beaucoup de messages. Je sais pas, j'ai dû recevoir une cinquantaine et à peu près autant de courriels. Et voici, tout à fait révélateur, je dirais, sur ce problème-là.
Oui, bonjour, c'est Gérard Charlois de la Convention Vie et Nature pour une écologie radicale. Alors, je voulais féliciter et remercier les milliers de personnes qui se sont mobilisées contre le championnat de déterrage de blaireaux dans l'Allier. Cela existe encore, que des gens s'amusent à déterrer des blaireaux rien que pour le plaisir de les voir souffrir. Eh bien, grâce à la mobilisation de beaucoup d'amis des animaux et de la nature, on a pu faire que la ministre prenne des positions favorables aux blaireaux et interdise leur mise à mort. Sur le terrain, que se passera-t-il? Que s'est-il passé? C'est une autre question, mais néanmoins, c'est un succès pour tous les amis de la nature et des animaux. Merci pour eux et merci pour les blaireaux. Allez, bon courage à tous et vive le vivant.
Voilà, merci à vous monsieur. En tout cas, c'est pas forcément pour le plaisir de les voir souffrir, mais en tout cas, ça existe encore. On va débuter en musique dans quelques instants et puis on va se retrouver avec Jean-Marie Pelt qui va nous raconter une belle histoire d'ail, de chicorée et de trèfle. Et voici, ah bah oui, les raconteurs, ça c'est très intéressant, Steady as the Sheet Goes. Et c'est quand même le chanteur de quand même des gens qui sont très connus, hein. White Stripe sur France Inter, c'est pas mal. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous allons partir à Marseille. C'est tout à fait agréable, nous sommes dans les Bouches-du-Rhône, vous le savez, il y a la Méditerranée. On entend ces vagues-là déjà, qui viennent lécher quoi. Eh bien nous sommes au bord de l'Estac, et dans cet Estac, il y a quoi? Il y a différentes plantes, et on va voir qu'il y a un exemple de coopération et aussi de compétition entre ces plantes que l'on connaît pratiquement toutes.
Voilà. Ce qui est impressionnant à Marseille, c'est de voir que les collines et montagnes qui sont autour de la ville sont toutes blanches.
Oui.
Et il y a à Marseille une alliance entre le bleu de la mer et la blancheur des terres qui est unique, que j'apprécie énormément à Marseille. Alors, sur cette chaîne de l'Estac, donc, qui est très proche de la ville, il y a bien longtemps, malheureusement, qu'il ne pousse plus d'arbres, parce qu'il n'y a plus de sol. Le sol a été complètement érodé, mais il y avait des arbres, et lorsque les phocéens sont arrivés à Marseille, tout ça était complètement couvert de forêts de chêne vert. Mais tout ça a complètement disparu aujourd'hui.
Non, il y a des terrains de foot.
Oui. Alors, il y a des graminées qui poussent comme ça sur ces endroits. Et puis, alors, on a repéré une sorte de trilogie curieuse entre un ail sauvage, une chicorée sauvage et une pâquerette sauvage.
Donc c'est cette histoire, l'ail, la chicorée et la pâquerette.
Voilà, c'est l'histoire de la chicorée, de l'ail et de la pâquerette. Alors, on a vu d'abord que ces trois-là vivent bien ensemble, une à côté de l'autre, et que cet ensemble se porte bien. On a vu aussi qu'on voit des pâquerettes et de l'ail ensemble, et ça marche très bien. On a vu qu'on voit des pâquerettes et des chicorées ensemble, et ça marche très bien. Et puis, le professeur Deleuil, qui a fait ses observations, a été très surpris de ne jamais voir un plant de chicorée à côté d'un ail. Alors, ça l'a intrigué.
C'est quoi? Répulsion? Qu'est-ce qui se passe là?
Alors, il a ramassé des aux, n'est-ce
oui,
pas?
Un ail des aux.
C'est ça. Il a ramassé des chicorées, il a ramassé des pâquerettes, il les a emmenées dans son laboratoire, il a fait des jus par expression des racines. Et il a posé dans ses jus des graines. Et il a vu qu'il n'y a aucune graine de chicorée qui peut germer lorsqu'elle est sous l'emprise de l'ail. L'ail est mortel pour la chicorée. Mais il a vu aussi que, par contre, des graines de pâquerette dans le jus de l'ail, elles ont un peu de mal à démarrer. Et puis tout d'un coup, elles démarrent et pan, elles peuvent affronter l'ail. On n'a pas fait, malheureusement, une chimie fondamentale là-dessus. Ça aurait été très intéressant de le faire pour savoir quelles sont les substances qui sont en jeu, puisque ce sont des substances chimiques qui sont en jeu. Mais on pense que l'ail émet dans le sol l'aliine, qui est la substance qui produit le goût particulier de l'ail, et que la chicorée est supportable, si on voit ça, et crève. Mais que la pâquerette crée des anticorps. Et que lorsqu'elle a créé des anticorps, elle a neutralisé l'ail. Et là, eh bien, la chicorée peut s'installer. D'accord. Parce que la pâquerette lui fait de l'aide sociale.
Oui, c'est elle lui tend la main. Elle
lui tend la main. Elle lui donne la main. Et donc, les trois vivent bien ensemble. Mais il faut que la pâquerette soit là. Oui. Sinon, l'ail et la chicorée se tapent dessus.
Alors, Jean-Marie, on peut se poser la question, est-ce que l'ail, en fait, a la même attitude avec d'autres plantes? Est-ce que, comme ça, c'est agressif avec d'autres plantes, l'ail?
Probablement, oui. Ceci n'a pas été beaucoup expérimenté, parce que nous sommes ici dans le domaine de l'écologie chimique, domaine dans lequel on sait très, très peu de choses, qui est très peu étudié, parce que pour l'étudier, il faut être à la fois botaniste et chimiste, et qu'on ne trouve pas les gens qui ont les deux casquettes. Mais on sait, par exemple, que l'ail, qui est en effet méchant avec un certain nombre de plantes, est très gentil avec un petit champignon qui s'appelle le sclérodon, qui lui ne peut vivre qu'avec l'ail.
D'accord.
S'il n'y a pas d'ail, il n'existe pas.
Donc la coopération.
Alors voilà, la coopération. Donc on a vu les mécanismes jouer en même temps de coopération et de compétition. C'est comme ça que fonctionne la nature. Et puis on s'est aperçu aussi que si on met de l'ail dans un semis de betterave, alors c'est l'ail qui crève. Parce que la betterave, elle est plus forte que l'ail. Et puis on a aperçu aussi, et ça m'a été dit tout récemment par un grand producteur de vin bio de la région de la Loire, qui a observé que les eaux sauvages se plaisent très très bien dans les vignes et que les vignes semblent s'en très bien porter. Et tout ceci nous montre qu'il y a entre les plantes des relations chimiques liées à des excrétions des racines qui font qu'elles se stimulent ou qu'elles se gênent. Et ce qui est tout à fait désolant, c'est que ça n'a pas été étudié et que nous avons là un immense champ de recherche dans le domaine de l'écologie, c'est-à-dire de l'étude de l'art de vivre ensemble.
Merci beaucoup Jean-Marie. Et pendant que les cloches que nous avons entendues pour rythmer cette histoire sont en train de se taire, eh bien on va vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Ben oui, c'est comme ça, dans les enregistrements avec Jean-Marie, on a des cloches qui sont derrière, comme ça, qui s'invitent, et c'est assez formidable. Nous avons deux invités aujourd'hui dans cette émission, Marc Giraud, qui est un formidable naturaliste, hein, qui est l'auteur du Kama Sutra des Demoiselles, la vie extraordinaire des animaux familiers et ceux de la ville et de la campagne. Cher Marc Giraud, bonjour à vous.
Bonjour Denis.
Je préfère préciser que vous appartenez vous aussi au JNE, c'est-à-dire l'association des journalistes écrivains pour la nature et pour l'environnement. Et dans votre jardin, qu'est-ce qu'il y a en ce moment?
Ah, c'est la période blanche, hein. Le jour n'est fini, il n'y a que des plantes naturelles quasiment chez moi, ça, oui. Ça vient tout seul. En ce moment, il y a du blanc parce qu'il y a encore du muguet, il y a aussi des orchidées sauvages, des céphalanthères pâles.
Pas mal.
C'est très joli. C'est
pas
tout petit, mal. Mais vu de près, c'est très très joli.
Et on va s'intéresser au bousier avec vous d'ici à peu près un petit quart d'heure.
C'est aussi très joli.
Et c'est très bien, mais oui, il y en a qui sont dorés, c'est une merveille. On va avoir une émission un petit peu à thème, ça paraît un peu surprenant comme ça, parce qu'il y a des sujets qui sont tabous, lorsque l'on parle des toilettes par exemple, des excréments, on se dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter là-dessus. Eh bien, Christophe Félin est donc face à vous, Marc Giraud. Bonjour Christophe.
Bonjour Denis Sachou.
Et vous avez écrit donc un ouvrage qui s'appelle « Un petit coin pour soulager la planète, toilettes sèches et histoire d'eau ». Alors ça c'est intéressant parce que on sait aujourd'hui que chez nous, à peu près en France, on a 30%, on va dire, bon c'est une moyenne, 30% de l'eau que nous consommons qui passe dans nos toilettes. Bien, on tire la chasse, on appuie, on sait qu'on a des économiseurs aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès là-dessus, mais quand même, les uns les autres, si on rentre un petit peu dans le sujet, c'est 1,5 litre d'urine par jour, c'est 150 grammes à 300 grammes donc de matière fécale par personne, et il faut un volume 30 fois supérieur avec les eaux usées pour évacuer tout cela. Alors c'est quand même un enjeu effectivement qui est assez important. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme enjeu? Enfin, ce sont les enjeux écologiques, ça. Donc,
Oui, il y a donc l'enjeu écologique, il y a aussi un enjeu psychologique, simplement se réapproprier cette fonction excrétrice dont on s'est débarrassé avec le tout à l'égout. On tire la chasse, on n'en parle plus. Donc là, l'enjeu, il est important aussi. Il y a un enjeu politique aussi avec le pouvoir qu'ont pris les multinationales par rapport à ces questions-là et qui donc utilisent ces quantités énormes d'excréments qui sont produites chaque jour.
Alors on va se dire que la cabane au fond du jardin, c'est peut-être pas exactement ce que l'on souhaite, mais racontez-nous alors maintenant concrètement ce qu'on appelle des toilettes sèches ou des toilettes à compost, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est?
C'est donc des toilettes sèches, c'est des toilettes qui n'utilisent pas d'eau, c'est-à-dire que très concrètement, les excréments vont tomber dans un réceptacle qui peut être un simple seau installé généralement dans un caisson en bois, donc d'une capacité d'une vingtaine de litres, qu'il faudra vider tous les deux ou trois jours. Mmh. On peut avoir également des toilettes sèches à plus grande capacité qui vont permettre là d'avoir une autonomie de 6 mois à 1 an.
D'accord, donc, mais ça peut être aussi pour des immeubles collectifs. Hein, ça peut, c'est,
oui, il y a des possibilités, alors aussi bien pour les maisons individuelles que pour les immeubles. Et il y a toutes sortes de modèles qui existent qui permettent de s'adapter à tous les lieux et à toutes les circonstances.
Mais au départ, c'est donc Christophe Félin, je dirais un trône classique, hein, comme on dit. Et puis donc après, vous avez, mettons, un plancher et dessous, vous avez donc ce réceptacle,
c'est ça? Oui, alors il y a des modèles compacts qu'on va donc pouvoir placer à la place du WC à chasse d'eau.
Ouais.
On aura dans le même ensemble le siège et le réceptacle. Et on peut avoir des modèles dissociés, c'est-à-dire qu'on va avoir au niveau des toilettes le siège et plus bas, par exemple au sous-sol d'une maison ou d'un immeuble, on aura le réceptacle.
Alors,
les deux étant reliés par un tuyau de chute.
Soit évidemment on peut le fabriquer ou le poser soi-même sur les bricoleurs. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui bricolent bien. Ou bien évidemment on peut aussi donc le commander. Maintenant que l'on comprenne bien, ça fonctionne. Donc il y a pas d'eau, d'accord, mais il y a quoi? On rajoute de la sciure.
Oui. Alors donc on va généralement à chaque passage on va rajouter une matière organique carbonée, c'est-à-dire pour équilibrer l'ensemble, parce que les excréments sont riches en azote, et donc avec les toilettes sèches, on va pratiquer ensuite le compostage. Mmh. Pour avoir un compost qui fonctionne bien, on a nécessité de rajouter d'une matière carbonée, et c'est donc ce qu'on va faire avec la sciure, les copeaux, de la paille,
Parce que donc c'est ça la finalité aussi, c'est quand même d'arriver à avoir un compost hein, également, que l'on soit dans un cercle, qu'on espère
oui,
un peu.
Le but, c'est justement d'éviter le cycle ouvert qu'on a avec la chasse d'eau qui retire finalement les excréments de leur cycle. Ils sont issus du sol et le but, eh ben, c'est de les ramener au sol.
Et en plus, on a de l'eau potable, on le rappelle toujours. Alors, je sais bien que c'est pas simple d'avoir aussi des circuits d'eau non potable, parce qu'on a tout construit qu'avec un seul circuit aujourd'hui dans nos pays. Mais on prend de l'eau propre, en fait, que l'on pourrait boire, on la met dans la chasse d'eau et donc on va de nouveau la souiller et après elle va être de nouveau lavée. Enfin, donc,
tout à fait. On a donc une eau, on utilise une eau qui a déjà été traitée pour être rendue potable. On va la polluer avec nos excréments et on va en plus devoir ensuite la retraiter avant de la rejeter dans le milieu naturel.
Voilà, votre histoire, c'est quand même... Je suis un peu une image. De même qu'on a des litières pour chats, on va dire, qui sont naturelles, parce qu'il y en a certaines qui comportent des produits. Là, c'est une litière pour les humains. C'est un peu ça l'idée, quoi.
Oui, c'est un peu ça l'idée. Mais justement, je crois qu'il faut... Il faut avoir cassé un peu les images qu'on a dans la tête et puis ne plus oser regarder en face finalement cette fonction qui est un processus naturel et qu'on a refusé de regarder depuis plusieurs décennies.
De toute façon, un des derniers tabous aujourd'hui de notre société, je crois que c'est assez clair. Alors bon, là, beaucoup se disent, mais attendez, ils sont gentils, ils sont en train de nous raconter ça, mais on n'a pas du tout envie de s'embêter avec tout ça. Alors c'est vrai que ça nécessite quand même un petit peu plus de travail, c'est-à-dire on l'évalue à quoi? Moi, j'ai vu dans votre bouquin, on va dire une demi-heure à peu près tous les 4-5 jours,
c'est ça, une semaine. Oui. Alors, après, ça dépend donc du système qu'on va adopter. Pour ceux qui ont un simple seau, effectivement, tous les deux ou trois jours, ils auront à aller vider le seau. Mais comme je l'ai dit, il y a différents modèles qui permettent d'avoir des autonomies différentes et donc qui peuvent ne représenter finalement que très peu de travail en plus, peut-être donc une demi-heure chaque mois pour certains, voire même moins que ça.
Bon, et donc on va vous dire, et est-ce qu'il y a des odeurs?
Oui, alors c'est vrai que c'est une question qui revient souvent quand on aborde les toilettes sèches. Alors l'ajout carboné dont j'ai parlé, tel que la sciure, a donc l'intérêt par rapport au compost, mais aussi il a l'avantage de recouvrir les excréments, donc de les soustraire à la vue, et également d'avoir un effet sur les odeurs. Il va donc limiter supprimer le développement des odeurs.
Alors pour nous, Christophe Hélin, il faut le dire, c'est pas du tout culturel, ça fonctionne pas, on n'en voit quasiment pas donc en France, mais il y a d'autres pays qui s'y sont mis. Je vois qu'il y a l'Allemagne, il y a la Suède, la Cité des sciences de Göteborg par exemple est équipée de toilettes à compost. En Autriche, vous avez cela aussi. À Bâle, à l'Université des sciences, on y était il y a pas tellement longtemps, on était à côté à Saint-Louis. La bibliothèque du canton de Bâle utilise ça. Enfin, je veux dire qu'il y a quand même des villes qui sont sensibilisées à ces toilettes, quoi, donc.
Oui, effectivement, il y a en France, on en est encore qu'au démarrage, mais il y a des pays, que ce soit l'Allemagne ou la Suède, où c'est déjà beaucoup plus avancé. Mm-hmm. Il y a eu une réflexion importante autour de ça et beaucoup de recherches faites pour justement trouver des techniques qui fonctionnent bien. On peut citer par exemple un lotissement de Bielefeld en Allemagne où toutes les maisons pour 90 familles ont été équipées avec des toilettes sèches. On peut citer encore de nombreuses villes en Suède, notamment Tanum, ou une ville de 12 000 habitants, où maintenant il est interdit d'envoyer les urines dans les égouts, parce que les urines sont donc très riches en azote, et avec tous les problèmes que ça entraîne pour...
Oui. Là, on comprend aussi, parce que derrière tout ça, il y a le problème de l'eau. Alors bon, nous, on est un pays tempéré, un pays tout à fait privilégié, on l'oublie un petit peu, et c'est comme ça, parce qu'on est bien situé, on est un peu gaspilleur d'eau. Maintenant, on fait quand même attention, on s'en rend bien compte, d'ailleurs à tout niveau, aussi bien les agriculteurs que les particuliers que les industriels, mais quand même. Et dans des pays qui ont vraiment besoin d'eau, qui en manquent, là, c'est un véritable problème. C'est pour ça que nous avons en ligne Pauline Savary. Bonjour Pauline.
Bonjour Denis, c'est
toi. Vous habitez à Nyons, qui est un coin superbe de la Drôme.
Hein, avec... Il fait un temps magnifique aujourd'hui.
Qu'est-ce que c'est bien, avec des distilleries à côté. Enfin, c'est un vrai bonheur, ce coin. Et alors, vous êtes la responsable d'une association qui s'appelle Toilettes du Monde. Donc, on ne va pas expliquer le mécanisme, c'est fait avec Christophe Hélin et donc son ouvrage Un petit coin pour soulager la planète. Mais parlez-nous vraiment des enjeux. Pourquoi d'abord cette association et quels sont les enjeux qui sont derrière Toilettes du Monde, Pauline Savary?
Alors, Toilettes du Monde, c'est une jeune association de solidarité internationale qui s'est donnée pour mission la promotion de la assainissement écologique et des toilettes sèches auprès de populations défavorisées, principalement dans des pays en développement, on va en parler, mais également en France, puisque nous intervenons auprès de la Fondation Abbé Pierre pour des populations qui sont dans une extrême précarité.
Alors vous travaillez donc avec qui, que l'on voit bien donc les enjeux aussi, concrètement, comment ça se passe?
Alors, au niveau mondial, les enjeux en termes d'assainissement sont très importants. Il y a encore 2 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas accès à un dispositif d'assainissement de base. Et puis, les maladies directement liées à une absence d'infrastructures sanitaires tuent encore plusieurs millions de personnes, en touchant principalement les enfants.
Donc on utilise les toilettes sèches aujourd'hui dans quel pays? Quels sont les pays un peu leaders?
Alors c'est vrai qu'il y a des régions du monde où les toilettes sèches ne sont pas une découverte, où il y a une tradition séculaire d'utilisation de toilettes sèches et d'utilisation des excréments pour la valorisation agricole, notamment dans des pays asiatiques comme la Chine ou le Vietnam, mais aussi en Afrique, au Mali. Et donc c'est vrai que les toilettes sèches, on va dire, sont une alternative au système d'assainissement conventionnel comme le total égout pour des pays qui ont des problèmes de ressources en eau.
Donc on a la Chine aussi, hein, qui est quand même très très en avance.
Alors la Chine, oui. Moi j'avais envie de vous parler d'un réseau international qui s'appelle le réseau Ecosan,
oui.
Qui est un réseau qui regroupe plusieurs structures, en Suède, en Allemagne, au Mexique, mais aussi en Chine, et qui donc fait la démonstration au niveau de projets pilotes. Comme quoi ces techniques d'assainissement écologique sont tout à fait viables.
Et vous avez des lieux publics hein, en Suisse, en Allemagne aussi, qui fonctionnent comme ça, de cette manière-là?
Oui, alors c'est vrai que pour des pays en développement, eh bien, on va adapter ces techniques aux matériaux locaux, aux techniques de construction locale, mais aussi aux coutumes sanitaires locales, de façon à ce que ces techniques-là puissent être complètement appropriées par les populations.
Oui, et puis parfaitement viables, parce que derrière, il y a souvent des médecins qui se disent, mais attention, je veux dire, propagation des microbes, etc. et tout, enfin, ça peut être aussi un lieu d'infection totale, donc il faut faire très attention à cela.
C'est vrai que ce sont des techniques qui nécessitent, on va dire, une attention plus importante de la part des utilisateurs, tant sur la gestion qu'après sur le traitement des excréments, et bien souvent, les programmes de, on va dire, d'installation de ces techniques-là s'accompagnent de programmes de sensibilisation et d'accompagnement des populations pour qu'elles utilisent bien les toilettes et qu'après on puisse avoir une valorisation agricole sans risque sanitaire.
Alors chez nous, même en France, vous avez certains festivals qui demandent d'avoir des cabines, donc des toilettes donc qui sont mobiles, mais des toilettes qui sont des toilettes sèches, quoi. Donc parce que très souvent on a donc des toilettes chimiques hein, qui existent avec de l'eau, et maintenant ça vient, il commence à y avoir une demande aussi de ce côté-là.
Oui, de plus en plus, mais je pense que Christophe Hélin pourra vous faire un petit peu le tour de la question. De plus en plus de structures, alors associatives ou aussi des micro-entreprises, ouais, se lancent et concurrencent les toilettes chimiques avec des modules de toilettes à compost qui rencontrent vraiment un grand grand succès auprès des utilisateurs.
Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que c'est quand même assez original comme démarche, Pauline Savary. Bon, on a bien compris, donc association solidaire. Mais pourquoi vous êtes intéressée à ça? Enfin, c'était quoi c'est le problème de l'eau qui vous a d'abord retouché?
Le problème de la ressource en eau, hein, les toilettes sèches, puisqu'elles n'utilisent pas le vecteur eau, sont tout à fait intéressantes pour des régions qui ont des problèmes de ressources en eau. Mais également, on pense aussi aux villes sans égouts, parce que, disons qu'on exporte nos technologies d'assainissement conventionnel, mais ce sont des techniques qui nécessitent des infrastructures très lourdes en termes d'investissement et après de gestion, et qui ne sont pas forcément adaptées à des pays qui ne vont pas pouvoir après assurer le bon fonctionnement de ces ouvrages.
Écoutez, merci à vous, hein, Pauline Savary, de nous avoir donc présenté votre association. Donc on le rappelle, c'est Toilettes du Monde. On indiquera hein, sur le site de CO2 Mon Amour, vous aurez donc les différentes coordonnées. Donc on aura mis votre courriel, on aura mis votre site complet. Et puis bonne journée à Nyons. Hein.
Eh bien merci, bonne fin d'émission à vous tous.
Vous êtes en bras de chemise, j'imagine. Oui, tout va.
Oui,
d'accord. Merci à vous, hein, Pauline.
Au revoir.
Et puis, voilà, c'était un jour j'avais rencontré cet homme avec beaucoup de plaisir qui s'appelle Pierre Perret et je me suis dit tiens, peut-être qu'un jour on était parti dans une conversation et voilà ce que ça donnait. Pierre Perret,
oui.
Est-ce que vous avez eu, quand vous étiez petit, vous dans le Tarn-et-Garonne, j'imagine que vous avez connu comme pas mal de gens la cabane au fond du jardin, enfin bon, c'était et est-ce qu'on utilisait tout ça?
À l'époque il y avait ce qu'on appelait le vidangeur qui passait tous les 3 mois, tous les 6 mois, je ne sais plus. Mes parents avaient un commerce, dont un café. Il y avait beaucoup de gens qui défilaient aux toilettes. Au cabinet, on disait à l'époque, il n'y avait même pas des toilettes. C'est effectivement, au fond de la cour, tout ça était...
C'est recyclé.
Ils s'en servaient pour les jardins.
Ouais.
Tous les jardins autour du pays, tous les potagers, parce que d'ailleurs, même lui, le vidangeur, était un maraîcher. Et il se resservait de tout ça pour ses melons, ses salades, etc. Rien n'était perdu, c'est vrai.
Donc il y a tout un travail de bactéries qui se faisait.
Complètement. Et ça, c'était quelque chose de naturel. C'était pas inhabituel dans le coin de se comporter comme ça. Il n'y avait pas grand-chose de perdu.
Ouais.
C'est vrai.
Depuis que j'écoute CO2 mon amour, je ne fais plus pipi dans le lavabo. On n'est pas pollué l'eau.
Et voilà.
CO2 mon amour avec Denis Chessou.
Et oui, s'immiscer, donc c'était bien des Palmas, c'était sur la route sur France Inter. Bienvenue dans le monde merveilleux, chatoyant des toilettes, mais oui. En général, c'est un lieu de méditation, on a tous des bouquins comme ça. Voilà. Et donc, nous parlons avec Christophe Hélin des toilettes sèches, des toilettes à compost, d'autres formes de toilettes. C'est pas pour autant que vous allez tout changer chez vous, c'est pas ça. Simplement, c'est une émission qui aime semer des graines. Et puis, on comprend bien aussi que dans d'autres pays, eh bien, c'est un véritable enjeu. Un petit coin pour soulager de la planète. État des lieux, tout à l'heure, on a eu Pauline Savary au téléphone. Et l'état des lieux en France, que c'est, on n'en voit pas beaucoup. Hein, donc...
Oui, c'est vrai que le mouvement est encore assez marginal, mais il se développe quand même. Et on peut citer une enquête qui est actuellement en cours, qui a recensé déjà plus de 1500 utilisateurs au quotidien. Et moi, je ne peux qu'encourager tous ceux qui ont l'occasion de visiter une maison dans laquelle ont été installées des toilettes sèches d'y aller, parce que ça, c'est très convaincant. Et beaucoup ont franchi le pas à ce moment-là.
Oui, je crois que c'est ça. C'est en voyant les choses, parce que là on en parle, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de réticences. Autre réticence, il y a quand même un problème de législation aussi derrière tout cela.
Oui, effectivement, mais la législation, en fait, concerne les eaux usées en France et elle n'évoque pas les toilettes sèches. Donc, on ne peut pas dire que les toilettes sèches sont interdites. Elles n'existent pas pour la législation. Donc, si on veut respecter l'esprit de la loi, ce qui est important, c'est d'éviter de toute pollution et tout danger pour la salubrité publique. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, il ne devrait pas y avoir de problème avec les toilettes sèches.
D'ailleurs, tout ça, laisser la nature faire le travail, quoi. C'est avec les bactéries, quoi.
Oui, effectivement, c'est simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cycle naturel qu'on laisse faire et on essaie de contrôler et d'accélérer éventuellement avec le compost, mais au bout du compte, c'est simplement la vie qui... Mm-hmm.
Donc après, ça deviendrait effectivement un compost. Alors dans cette histoire, là, il n'y a pas de lombric, c'est pas de lombric, il est dans la terre, quoi, donc...
Non, mais il y a du ver de fumier qui va
activer l'affaire.
Oui, qui va avoir une activité dans le compost et qui va jouer son rôle.
Oui.
Comme
oui.
Plein de micro et macro organismes qu'on va
comme
trouver
quoi,
dans
les
le
animaux. Hein, on les retrouve partout.
On les retrouve partout, Marc Giraud. Ben oui, tout à fait. Et donc avec vous, Marc, on va vous voyez, là c'est un peu une émission à thème. J'aimerais qu'on parle justement de ce qu'on appelle les bousiers, les coprophages.
Mais oui, ils ont leur importance.
Ben voilà, parce que c'est quand même, ils ont un rôle de décomposeur dans la nature.
Sans eux, on serait dedans, visiblement. Souvent, quand on parle des pyramides alimentaires, vous savez, on dessine une pyramide. Donc en bas, il y a l'herbe, au-dessus, il y a les herbivores, au-dessus, il y a des petits carnassiers, au-dessus encore, il y a les super prédateurs, il y a l'homme, etc. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que ces grosses bêtes là-haut, ils lâchent des choses qui retombent en bas.
Ouais.
Et là, il y a des petites bêtes qu'on ne voit pas parce qu'elles sont souvent microscopiques, mais qui sont capitales, sans lesquelles on ne pourrait pas vivre. En fait, les déchets des uns nourrissent les autres. Mmh. Nous, on respire de l'excrément de plantes. Si vous voulez, l'oxygène, c'est le déchet des plantes. Faut pas oublier ça. Mmh. Et nos excréments à nous, c'est la nourriture de plein de petites bêtes qui se réjouissent. Et moi, je passe beaucoup de temps, notamment à quatre pattes devant les bouses de vache. On prend un peu pour un fada, mais c'est passionnant, les bouses de vache.
Vous avez effectivement, dans ce DVD que vous avez sorti, vous en avez sorti deux qui sont remarquables. Les animaux du printemps et les animaux de la campagne. D'ailleurs, celui-là, il a eu un prix. Alors, c'est très marrant parce que dans les DVD, vous avez toujours le bonus.
Et bon.
Donc, Quand c'est avec les chanteurs, on les voit en train de se laver, enfin, etc. Et là, en bonus, c'est la vie insoupçonnée dans une bouse de vache.
Justement, et ça a obtenu le premier prix du jury à Sciences Frontières. Donc quand même, on est très très fiers, justement, parce que montrer la biodiversité et l'importance de la biodiversité en deux minutes, c'était un challenge. Et donc, moi, je me suis tenu devant une bouse de vache où j'ai raconté l'histoire de l'Australie. Je vais vous la raconter, si vous voulez.
Dites-nous, racontez-nous
l'histoire de parce que c'est vraiment capital. Bon, restez un petit peu devant une bouse de vache. Vous allez voir des tas de bêtes, d'ailleurs. Alors, il y a des scientifiques qui se sont posés sur cette question intéressante, qui ont calculé qu'en moyenne, les premiers insectes arrivaient au bout de 3 secondes, 6... exactement, oui, voilà.
Ah oui.
Donc, ils sont quand même penchés sur cette question.
Top chrono.
Voilà, donc, il arrive des mouches de toutes les couleurs, qui sont magnifiques, des vertes, des bleus, des jaunes. Mm-hmm. Les mouches jaunes, qu'on appelle très poétiquement les mouches à merde, mais en fait, ça s'appelle les scatophages du fumier.
Oui.
On les voit s'accoupler, parce qu'une bouse, c'est un festin pour plein d'animaux, c'est un terrain de chasse, c'est une orcerie, et c'est aussi un rendez-vous amoureux. Il y a plein d'animaux qui viennent se reproduire là-dessus.
D'accord.
Donc il y a des bousiers, par exemple, des bousiers qu'on a introduits en Australie, justement, il y a deux sortes de mâles. Il y a le gros gros mâle, très costaud, qui plaît beaucoup aux femelles, donc il vient faire son petit terrier de bouse avec sa femelle. Et il y a un tout petit mâle qui est beaucoup plus malin, qui attend qu'il soit installé. Et dès que le gros mâle a tourné le dos, hop, le petit mâle vient copuler avec la femelle. Ouais. Et il y a comme ça en cohabitation des gros mâles et des petits mâles. Alors évidemment, il faut se pencher sur les bouses pour voir tout ça, mais c'est absolument passionnant.
Mais ce que l'on rappelle quand même derrière tout ça, c'est donc ce rôle de décomposition, c'est-à-dire
oui.
que régénérescence, tout
absolument.
Le monde se nourrit, sinon on serait complètement envahi. Quoi. Enfin,
c'est ça. Oui, alors l'Australie, donc l'Australie, il y a 200 ans, on a introduit beaucoup de bétail, des vaches et des moutons qui faisaient leurs bouses et leurs crottins tous les jours. Il y avait quand même à peu près 450 millions de bouses qui tombaient tous les jours sur le sol australien, c'est énorme, et ça stérilise le sol, parce que là-bas, il y avait quelques bousiers, mais ils étaient adaptés aux kangourous, aux koalas, qui font des croches sèches, et ils ne travaillaient pas là-bas. Et il y avait quand même 1 million d'hectares de pertes annuelles agricoles de terres, ça faisait des millions et millions de dollars australiens qui étaient perdus.
Oui, parce que c'était stérilisé, quoi, en quelque sorte.
Absolument. Puis ça a écrasé l'herbe, donc les ruminants n'avaient plus à manger. D'accord. Ça a attiré des mouches qui étaient vectrices de maladies. Enfin, le cycle était cassé. Ouais. Et c'est là qu'on voit que c'est très important. Donc, les entomologistes, à partir de 1960, ont introduit des espèces de bousiers, justement, adaptées à l'Australie. Alors, ils sont allés chercher en Afrique, en Europe. Même, il y a des espèces françaises qui sont venues là-bas. On a mis 15 ans, on a dépensé des millions de dollars. Et aujourd'hui, ces petits bousiers, ces mouches insignifiantes qu'on veut pas regarder, ont quand même sauvé l'Australie. Ce n'est pas négligeable.
D'accord. Mais donc parmi ces insectes, bon, on a ce qu'on appelle des diptères, bon, les moustiques
les mouches,
et les mouches en font partie.
Oui.
Donc là, c'est aussi des insectes, parce que là on parle des coprophages, mais vous avez ceux aussi qui sont détritivores, vous avez ceux qui sont aussi nécrophages. Donc...
Ah oui, alors il y a les coprophages, c'est-à-dire les bouffeurs d'excréments.
D'excréments,
et
oui.
Les coprophiles, c'est-à-dire ceux qui viennent chasser, parce que comme c'est un écosystème, toutes ces petites bêtes attirent d'autres animaux. Donc la mouche jaune dont je vous parlais tout à l'heure, elle chasse d'autres mouches.
Oui.
Donc il y a même un mini-équilibre là-dessus qui se fait. Donc il y a les coprophages, les coprophiles, il y a des très grosses bêtes, il y en a des toutes petites. Il y a par exemple des acariens qui prennent le taxi à dos de bousier justement.
Ah, c'est intéressant.
Ah, oui. Parce que tous ces animaux, ils sont par l'odeur alléchée, donc en général ils ont des palpes, des antennes et des ailes pour abousir. Mmh. Enfin, quoique abousir, ils préfèrent atterrir à côté.
On dit abousir,
bah, oui.
Oh, c'est beau.
Mais,
je vais abousir.
Voilà,
oui.
Comme ils arrivent quand c'est frais, en général c'est plutôt glissant, donc ils atterrissent à côté et puis ils terminent à pattes.
Ouais.
Voilà, c'est plus facile pour eux. Donc les bousiers, qu'on voit peu parce qu'en fait ils sont nocturnes puis ils travaillent par-dessous. Hein.
D'accord.
Il y a les mouches qu'on voit bien,
ouais.
Et il y a ces tout petits acariens qui, eux, n'ont pas d'ailes. Donc, ils voyagent à dos de bousiers. Et le challenge pour eux, c'est de se dépêcher, de s'accoupler, de se reproduire, de pondre et de reprendre le taxi pendant qu'il y a encore des taxis, parce que sinon ils se retrouvent dedans, mais là définitivement. Voilà, donc tout ça, vous le regardez sur la bouse, hein. Il y a des toutes petites mouches qui s'appellent les sepsis, qui sont minuscules. Les mâles sont très très belliqueux. Dès qu'ils voient une femelle pondre, ils les attrapent par la base des ailes, ils attendent, ils se reproduisent, ils les font repondre.
Oui.
C'est un vrai enjeu, hein. Et eux, ils les attirent avec un parfum aphrodisiaque qu'ils diffusent par des diffuseurs qu'ils ont sur les pattes.
D'accord.
Alors, séduire avec un parfum au milieu des bouses, faut quand même le faire. Hein. Mais tout ça se passe près de chez nous. Hein.
Et c'est quand même dans ce règne des insectes, parce que c'est quand même le règne animal le plus important.
Oui.
Aujourd'hui, on en connaît quoi
Rien que les coléoptères, c'est plus de 300 000 espèces, autant
voilà.
Que de végétaux connus. Et on ne sait pas tout, justement, parce que personne ne s'intéresse trop à ça. Il y a de moins en moins de professionnels, donc c'est pas recensé. On en découvre tous les ans, en France encore, hein, des insectes nouveaux.
Donc, j'en ai vu un très très joli dans un bel ouvrage aux éditions du Chêne. Je vous le cite, qui s'appelle Insectes. Il est signé Philippe Roger pour le texte et Paul Starosta pour les illustrations, pour les photos.
Livre.
C'est un très beau gars. Et alors, j'ai vu un Copris lunaris
que
je ne connaissais pas et donc est un petit bousier. Et en fait, il élabore ses pilules de crottin de cheval.
Oui,
de
tout
cheval
à fait.
Et
c'est
mouton.
Très bizarre. Oui, c'est très. Alors, ça, oui, c'est chez nous.
Il fait des petites pelotes, donc des petites pilules, et puis après, il les enterre dans le sol.
Voilà. Et les femelles sont très polies parce que quand il y en a une qui a fait son petit nid de bouse, il y a des galeries. Si jamais il y en a une qui tombe sur la galerie de l'autre, elle fait un petit tunnel pour éviter la copine, la collègue, voilà, tout ça se passe très, très
très
bien,
bien
voilà.
Oui.
Bon, il y a quand même une compétition dans la bouse parce que ça se dessèche.
Oui.
Donc on a étudié ça, il y a trois étages dans une bouse, donc là il y a la croûte, il y a la partie moyenne et la partie la plus liquide en bas, et au fur et à mesure que ça se déchaisse, les insectes vont vers le bas.
D'accord.
Et donc il y a quand même pas mal de rivalité là-dedans. Ça grouille de vie, mais c'est une vie, c'est vraiment vital pour l'écosystème.
Et puis aussi alors, usage alimentaire, parce que la petite pilule en question qu'ils ont faite, donc ils l'enterrent, puis ça servira de nourriture, ils pondent un œuf à côté, et ça servira en fait de réserve de nourriture.
C'est
de,
très bien
de
organisé, garder. Oui.
Ouais.
Parce qu'il y a des insectes qui pondent des milliers d'œufs dans la nature, qui s'en occupent pas eux, ils s'occupent beaucoup de quelques œufs. Comme ça, ils sont sûrs de les faire parvenir à terme. Donc ils s'occupent vraiment de leurs petits, les bousiers. Hein.
Vous voyez, c'était un pari cet après-midi d'essayer de vous intéresser.
On peut parler d'amour sur les bouses de vache.
Mais on va parler d'amour. Vous avez même juste avant, je vais vous proposer une petite pause, n'est-ce pas? Parce que là, mais voilà, on peut aussi vous intéresser avec un sujet comme ça. Et on va essayer de quand même de vous changer un peu les oreilles aussi avec Pierre-Paul Jacques. Ouais, scandale bag.
Yeah, elle est femme. And Pierre-Paul Jacques, that's what's up. Break up the makeup. Why all the fighting? Why are we going on like it's world war? We need no more war. We need a little love in our life. We must carry up your income. Come on!
Ami,
hey.
Ou ennemi, qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'on entend que le bruit de la guerre. Ça veut dire, puisqu'on aime tant se faire souffrir. Ami,
peut faire puisqu'on entend le bruit de la guerre. Oh doudou, my man, qu'est-ce que ça veut dire puisqu'on veut tant se détruire. L'amour est pas la guerre, l'éléphant a les nerfs. Regarde pas ce qu'il y a dans le scandale bag. Faut piller les couteaux, mais ranger les fusils. C'est nous les dada, c'est nous les dada. C'est nous les dada, c'est nous les dada.
What we fighting for, when we were working for. I know that we striving for, what we rising for. To shine like the rising star. We want to make up with me and her. Very good we come that now we far. Why the player is a member of me we far. I want a way me try me, you put full of it a bar. So we think back a warning for, far.
Eddie.
Yeah.
Ou ennemi, qu'est-ce que ça peut faire puisqu'on entend le bruit de la guerre.
No more fighting.
Doudou, my man, qu'est-ce que ça veut dire puisqu'on aime tant se faire souffrir.
I'm sorry, not for love, girl.
Doudou, faut que nous stoppez goumin pour nous parler doucet. Les amis, faut plier les couteaux, ranger les fusils, c'est nous.
C'est nous les dada,
c'est nous.
C'est nous les dada,
c'est nous les dada.
Hey boo, what's up with you? On a elephant, I mean no animal at all. You tell me I don't love you, and that's a true. Woo. Never make you sad, I will never make you blue. These are the things that I want you to do. No follow them with your secret, girl, cause that's not true. Fulfill your wish, make your dreams come true. Do you know you want me boo? Do you know you want me boo?
C'est nous.
Pierre-Paul Jacques sur France Inter. Mais là, il n'était pas tout seul. Hein. Il était quand même avec un des meilleurs chanteurs jamaïcains les plus populaires qui s'appelle Elephant Man. Et il nous interprétait Scandale Bag. Dites-le avec des bouses. Oui, nous sommes partis des toilettes. Nous arrivons aujourd'hui sur les bouses. Il y a une cohérence dans cette émission avec Marc Giraud. Et vous nous avez promis des histoires d'amour. Dites-le avec des bouses. Dites-nous
ben oui, comment oui, ça oui, se passe dans la nature. Bonheur, hein. Ben, pour la feu, mettez-vous à la place de la femelle bousier.
Ben, je le fais tout de suite.
Pour elle,
sûr.
Une boulette d'excréments, c'est quand même le cadeau de noces idéal. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle est séduite par le mal. Hein. Faut se mettre à leur place.
Donc on donne ça. C'est
oui.
Parce que ça veut dire qu'elle aura le gîte, le couvert.
Oui, et le gîte pour ses petits oui. Aussi. Donc si le mal fait une belle boulette de bouse, ça veut dire quand même qu'il est performant, c'est un
d'accord.
Bon géniteur. Et c'est comme tous les cadeaux de noces. Hein.
Ouais.
Bon, il y a d'autres animaux qui se donnent des petits poissons, des petits. Elle, c'est une boulette d'excréments.
C'est une bouse. Voilà. Et alors, lorsque l'on rentre dans certains terriers, par exemple, si on va du côté de la chouette. Comment ça se passe? Quel rapport entre les excréments et la chouette?
La chouette mange des insectes, justement, des bousiers. L'écosystème n'est pas fini avec ça. Hein. Et en Amérique, par exemple, la chouette des terriers, on s'est aperçu qu'elle décorait son terrier. Enfin, c'est pas elle qui le creuse, hein, le pique à des blaireaux, tout ça. Donc, elle décore le terrier avec des morceaux de bouse de vache, justement. Et il a fallu des années d'études pour comprendre pourquoi elle faisait ça. Ça paraît absurde. Et en fait, c'est pour attirer les bousiers, justement, et les chouettes qui ont leur terrier décoré de bouse, comme ça, mangent 10 fois plus de coléoptères servis à domicile.
D'accord.
Il y a aussi une araignée qui fait ça, qui met des petits bouts de déchets, comme ça, et ça attire les mouches. C'est évident. Hein.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme autre histoire
voilà. Des histoires d'amour. Ben, chez la salamandre à dos rouge en Amérique, toujours, la femelle inspecte les crottes des partenaires possibles. Parce que ça donne d'abord si ce sont des bons chasseurs, si le territoire est intéressant, et donc les mâles de salamandre savent que les femelles vont inspecter leur crotte, donc ils crottent beaucoup plus mm-hmm. pour leur plaire. Comme quoi la crotte peut aussi être un instrument de séduction.
Ouais, ouais.
Il y a aussi l'histoire du vautour Percnopter qui vit chez nous. Hein, le vautour Percnopter, il est beau, hein, adulte, il est noir et blanc, on dirait une cigogne.
Alors, c'est très un très très grand planeur, parce qu'en général, le vautour se prend tous les ascendants nécessaires et évite de battre des ailes.
Alors, il a la tête jaune, lui. Ah. Et pour être séduisant, le mâle de Percnopter, il doit être le plus jaune bronzé, si vous voulez. Pour séduire, il faut qu'il soit bronzé. Ouais. Et pour bronzer, qu'est-ce qu'il fait? Il va manger de la bouse de vache parce qu'il y a des caroténoïdes là-dedans et que ça va lui bronzer la figure. C'est comme ça qu'il plaît, le vautour.
D'accord. Donc, masque de beauté, et ça fonctionne quand même plutôt pas mal. C'est vrai que pendant un certain temps, les éleveurs ont utilisé une molécule qui s'appelle l'ivermectine.
Ah.
Qui a causé quelques problèmes.
Drôle. Oui. Et puis c'est toujours. Alors là, si vous voulez vermifuger un cheval ou une vache, en général, la plupart des produits contiennent encore de l'ivermectine. C'est un vrai scandale. C'est-à-dire qu'on est en train de stériliser nos campagnes à nous. On est en train de faire ce qu'on a évité en Australie en stérilisant les crottins des chevaux,
c'est-à-dire
les bouses de vaches.
C'est-à-dire que Marc. Bon, donc la bête va ingérer donc cette molécule. Voilà. Combien qu'il faille, il faut vermifuger donc ces bêtes-là.
Absolument.
Et après, donc la bouse va être stérile. Enfin, c'est ça.
Voilà. Et l'ivermectine, ça tient 4 mois. Et c'est très très très. C'est-à-dire que des mois après le dépôt de la bouse ou du crottin, d'abord le crottin reste. Il se passe comme en Australie exactement. Les bousiers crèvent. J'ai des amis entomologistes au muséum, par exemple, qui prospectent beaucoup à Fontainebleau. Oui. Fontainebleau qui se dit la ville du cheval. Et ben au printemps à Fontainebleau, à côté des crottins de cheval, tous les bousiers sont morts. Alors je suppose que là-bas, dans les centres équestres, on emploie un petit peu trop d'ivermectine. Alors l'ivermectine, faut pas l'employer, mais il y a la moxidectine, qui est une autre molécule qui est bien plus efficace. C'est pas forcément plus cher. Donc entre les deux, il faut faire attention, parce que quand on tue les bousiers, on tue aussi les chouettes de chez nous, les chouettes chevêches, les chauves-souris, les faisans aussi, même les sangliers qui peuvent manger des bousiers empoisonnés. Ceux qui mangent de la viande de sanglier, ils savent pas ce qui est, parce qu'il n'y a pas d'études là-dessus. Donc c'est quand même des molécules dangereuses qu'on est en train de mettre volontairement pour se faire du pognon. Il n'y a pas d'autre mot, c'est les lobbies de la chimie qui font ça, et on pourrait éviter. Donc si vous avez des animaux, évitez l'ivermectine et employez la moxidectine.
C'est-à-dire qu'ils le font pas forcément avec cynisme non plus.
Hein. Ah non, ils le savent pas. Voilà, il faut le savoir. Parce que le crottin des chevaux, par exemple, des centres équestres, il sert aussi à la culture des champignons de Paris. Donc tout ça, ça peut revenir dans nos assiettes et dans nos organismes.
Hein. Cool. Bon, bah écoutez, moi je vais vous renvoyer donc à ces différents ouvrages. Donc Christophe Hélin, qui est toujours avec nous, là, qui vous écoutait attentivement, Un petit coin pour soulager la planète, c'est aux éditions Gouttes de sable. Vous avez ces deux DVD vraiment remarquables, Les animaux de la campagne et Les animaux du printemps de Marc Giraud, et puis son ouvrage, Le Kamasutra des demoiselles. Et alors voilà, donc ce comédien qui était génial, moi que j'aimais beaucoup, qui était donc Claude Pieplu, je l'avais rencontré un jour, c'est vraiment un peu le hasard, parce que bon, il est décédé, on le sait, cette semaine, et je l'avais rencontré face à sa très très belle collection chez lui.
J'ai des rabatteurs quand même, vous savez, tous les objets là que vous pouvez voir, vous faites allusion à mes pots de chambre, je suppose.
Ah bah c'est pas des allusions.
Alors, j'en ai trouvé moi-même, et puis j'ai des correspondants, les gens savent un petit peu que je collectionne des pots de chambre, alors je reçois des lettres de gens qui pensent aussi faire de très bonnes affaires avec moi, il y en a qui vont carrément, là, qui proposent un maximum là. Oui. Quelqu'un me propose carrément une collection de, je ne sais pas, 30 pots de chambre. Il me parle de 3 unités. C'est quoi 3 unités? Il n'ose pas dire le chiffre. C'est 3 millions 3 millions anciens.
Mais ça pourrait être une profession, ça, rabatteur de pots de chambre?
Ah oui, bon, tout peut être une profession, oui. Tout peut être une profession. Moi, ma première rabatteuse de pots de chambre, je l'ai trouvée à Londres. Parce que je suis tombé chez elle, elle en avait encore plus que moi. Moi, j'étais déjà fier de la mienne, j'en avais eu, pas une trentaine à l'époque, il y a quelques années de ça, maintenant il y en a un peu plus. Elle en avait au moins 300. C'était une Suissesse, et j'ai, tout d'un coup, je me suis dit, mince, mais ça se collectionne, les gens. Moi, je croyais que j'étais le seul à le faire. Et à Londres, on en trouvait des très jolis, parce que les Anglais ont toujours eu des très beaux pots de chambre. Je ne sais pas s'ils en ont encore maintenant, mais c'est de la belle faïence, la fameuse faïence anglaise qui est réputée, dont on fait aussi des soupières.
On trouve plus facilement des pots de chambre à l'étranger ou en France?
Les plus beaux pots de chambre que j'ai viennent d'Angleterre.
19e?
Oui, 19e, et puis un peu ça aussi. Puis il y a les bourdaloues aussi. Oui. Les bourdaloues, c'est des pots de chambre très particuliers, et qui sont des pots de chambre du 18e, qui datent justement de l'époque de Bourdaloue, qui était un grand prédicateur de l'époque, et toutes ces dames suivaient ces homélies qui était très très longue. Mais justement, ces dames qui ne pouvaient pas interrompre les homélies de Mgr Bourdaloue,
je comprends, oui.
Et qui avaient quand même des petits besoins naturels à exprimer, le faisaient justement dans un certain pot de chambre d'une certaine forme qu'elles mettaient sur leur grande crinoline. Et elle se laissait aller là à ce besoin naturel. Et on a appelé ces pots de chambre des Bourdaloues.
Quels sont vos critères, Claude Pieplus, pour choisir un pot de chambre ?
C'est surtout le décor. Il y a des pots de chambre qui sont vraiment très, très, très joliment décorés.
Et c'est de la vie quotidienne ?
Les couleurs. De la vie quotidienne, peut-être pas, mais enfin, des petits bouquets de fleurs, des petits animaux. J'ai une très belle paire de pots de chambre romantiques où on voit deux cygnes noirs qui se laissent flotter sur un lac avec des... C'est très très romantique. Et les paires sont très rares.
Combien de collectionneurs, à votre avis, de pots de chambre ? Vous en connaissez d'autres en France ?
Ah, il y en a, oui. Par les lettres que je reçois, je peux dire qu'il y en a pas mal. Parce que, tiens, voilà une idée de collection. Collectionner des lettres sur un même thème. Oui. Ben ça doit pas être si facile que ça. Eh bien, à cause des pots de chambre, je peux maintenant dire que j'ai une quinzaine de lettres ne parlant que de pots de chambre. Et à partir des pots de chambre, j'ai commencé une collection de lettres.
Et c'était un homme qui défendait vraiment la nature, Claude Pieplus. Là, c'était un clin d'œil parce qu'on avait organisé cette émission, évidemment, bien avant d'apprendre sa disparition. Donc, c'est comme ça. Et il s'était engagé pour protéger le marais Poitevin, pour protéger la loutre. Il faisait très, très attention à cela. Merci en tout cas pour l'homme que vous étiez et tout le grand talent qui est le vôtre. Merci à Jean-Claude Barré, Julien Dumont aujourd'hui à la technique, à Jean-Baptiste Audibert, à Jean-Christophe Pinaza et Xavier Pestuggia qui réalisait cette émission. C'est Karl Vasseur qui a choisi les disques. Donc pas mal de liens sur notre site, donc n'hésitez pas. Anne Gouzon en a rajouté, on a beaucoup d'éléments donc sur ce site. Vous pouvez réécouter cette émission pendant une semaine, pas plus. Bah ouais, je sais, c'est comme ça. Et puis vous pouvez la podcaster, si vous pouvez l'enregistrer. Bah ouais, vous avez ça, vous avez autour de chez vous, vous avez sûrement quelqu'un qui a un podcast, on enregistre ça. La semaine prochaine, Jean-Marie Pelt, bien sûr, avec une nouvelle histoire, et puis ce sera un spécial, ça va être un grand reportage sur Porquerolles, c'est-à-dire le parc national de Porquerolles, au large de Hyères. Donc on va faire une petite balade, on va aller saluer les Mérous, avec Nicolas Girardin, entre autres, et puis Denis Chessou, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve, vous le savez, la semaine prochaine. Dans quelques instants, ce sera Le Monde selon WAM avec Isabelle Giordano. Donc, vous restez à l'écoute de France Inter. Il est 15h. Michel Khalifa nous présente les infos.